Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 30 juillet 2022, en plein cœur des voitures anciennes de Granby, sur lesquelles on reviendra un peu plus tard dans l'émission. Vous aurez compris qu'on a enregistré deux jours plus tôt pour pouvoir être aux voitures anciennes de Granby, où ce matin, on faisait un live Facebook en direct que vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, Antoine Joubert, chroniqueur auto. C'est un peu mêlant tout ça, mais vous avez énormément de contenu, donc vous pouvez écouter l'émission en direct. Après ça, allez écouter le live qui avait lieu un peu plus tôt ce matin. Après ça, ben, venir nous rejoindre aux voitures anciennes de Granby. On est là jusqu'à dimanche soir. En attendant, Germain...
Bonjour.
Bonjour. Quelques actualités. Chevrolet Colorado qui a été dévoilé, puis on l'attendait. On l'attendait pour deux raisons. Parce qu'on avait hâte de le voir, mais aussi parce qu'on avait un livre à finir.
Oui, effectivement. il commence à être un peu moins une. Toute petite parenthèse, je voyais cette semaine des publicités du Chevrolet Colorado 2022 dans lesquelles on nous disait de commander dès maintenant notre Colorado 2022.
Ouais.
Je pense qu'il est trop tard.
On salue les gens de Cossette.
Oui,
Qui ont aussi fait la publicité de la Chevrolet Caramo.
Qu'on remarquait cette semaine que...
Il
y a une publicité qui circulait sur les réseaux sociaux de la Chevrolet Caramo 2022. Donc, une petite faute de frappe. Donc, voilà, c'est pas facile pour les stagiaires d'été cette année chez les gens en charge de la publicité chez Chevrolet. Alors, on revient à nos moutons, le Chevrolet Colorado qui reçoit une bonne mise à jour pour 2023, donc la partie avant redessinée.
Toute la carrosserie est redessinée au complet. Et la seule pièce qu'on a conservée, c'est la lunette arrière, qui est 100% identique à l'ancien modèle.
Mais il ressemble
à... On a gardé la même cabine qu'on a réhabillée. Ça, c'est quand même évident. Donc, le véhicule ne sera pas nécessairement plus spacieux.
Mais parlant de cabine, voilà, il faut savoir qu'on n'aura que la cabine double et la caisse courte.
C'est ça. Alors, c'est drôle parce qu'on abandonne la caisse longue. Une stratégie assez curieuse et qui est très, très drôle parce que...
Au même moment, Ford fera exactement l'inverse.
C'est ça, c'est que pendant on se plaignait
du Ford Ranger qui ne pouvait combiner la grande caisse qu'avec la petite cabine. Mais là, pour 2023, on pourra avoir la grande caisse et la grande cabine. Mais bref,
chez Ford. Mais chez GM, on l'abandonne.
Oui, c'est ça. Donc, c'est bien curieux. Et on nous disait qu'il n'y avait pas nécessairement d'intérêt commercial de ce côté-là. Faudra voir si les acheteurs seront pas peut-être un peu déçus de ça.
Puis attendez-vous à ce que ce soit la même chose chez GMC. Là, on va dévoiler le Canyon d'ici 2-3 semaines.
C'est toujours des véhicules qui sont jumeaux, non identiques. Il n'y a pas de grande distinction.
Puis il y aura une version AT4, puis une AT4X, puis une Denali, puis voilà. Mais,
sur le plan mécanique, gros changement quand même. On se rappelle qu'on avait éliminé le moteur diesel, le petit 4 cylindres aussi. On ne conservait que le V6 de 3,6 litres. Mais pour 2023, on l'a tassé.
Bye-bye, le V6.
Au revoir. Et le nouveau Colorado aura droit au même moteur que le Silverado de base, c'est-à-dire le 4 cylindres turbo-compressé de 2,77 litres.
Ouais.
Donc, grande nouveauté quand même, on le mentionne.
Cependant, il y a différentes configurations. Ouais. C'est-à-dire que il y a 5 versions de disponibles pour le Colorado. Si vous optez pour la version Work Truck ou la version LT, qui sont les deux modèles d'entrée de gamme, mais là, vous allez avoir un moteur avec une puissance un peu plus limitée.
237 chevaux, 259 livres-pieds.
Oui, et c'est ça. Et une capacité de remorquage limitée à 3500 livres seulement.
Ce qui n'est pas beaucoup là, pour une camionnette intermédiaire comme ça. Là.
C'est très peu. Et j'ai l'impression que, bon, on va justement... On fait ça pour offrir des camionnettes un peu moins coûteuses à des gens qui n'ont pas nécessairement l'intention de travailler très fort avec ça. Mais on pourra, pour ces deux versions-là, même pour un work truck, opter pour l'autre moteur. En fait, l'autre 4 cylindres 2.7 litres turbo qui, lui, fait 310 chevaux et 390 livres-pieds de couple. Ça, c'est un moteur qui sera de série dans la nouvelle version Trail Bus, qui pour moi va être la plus populaire. J'ai l'impression qu'on va en vendre énormément de ce modèle-là. Et dans la version Z71, qui se veut la plus luxueuse. On a une vocation plus luxueuse. Et au sommet de la gamme, bien là, tu as le modèle ZR2 qui revient.
Qui a toute une gueule, là.
Et particulièrement si tu prends le groupe Desert Bus, là, avec les l'arceau de sécurité et tout ce que tu voudras. Alors là, c'est le même moteur 2.7 litres turbo, encore une fois, 310 chevaux toujours, mais 430 livres-pieds de couple.
C'est intéressant,
c'est
là.
C'est ça. Et là, bien évidemment, avec ces deux, avec cette mécanique-là, autant pour le Z71, le Trail Bus, là, on peut remorquer 7700 livres. Alors, c'est pas mal plus sérieux, là.
J'aurais aimé quand même que pour les versions de base, on puisse tirer 5000 minimum.
Ah, on peut, parce que tu pourras opter pour le moteur en option.
Un work truck
puis un LT, tu pourras prendre le moteur 2.7 de 310 chevaux en option, comme je disais, mais de série, ça vient avec un moteur moins puissant.
Je comprends.
Et j'ai l'impression que c'est de la programmation électronique plus que d'autres choses, là. Mais il en demeure, parce que c'est la même mécanique. C'est un moteur qui, pour le moment, comme tu le disais, se retrouve dans les camionnettes pleine grandeur comme modèle de base et la Cadillac CT4V. C'est assez particulier.
C'est une drôle d'utilisation, mais pourquoi pas?
Mais ce moteur-là pourrait peut-être être appelé à se retrouver sous le capot d'un futur VUS intermédiaire, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, par exemple, ce moteur-là sous le capot d'un Blazer?
Ou même d'un Traverse.
Bon.
Je te dis pas que ce sera efficace,
mais on
sera capable d'éliminer éventuellement le V6 pour en faire ça, là.
Sauf que j'ai hâte de voir ce que ça va donner sous le capot du Colorado, parce que sous le capot du Sierra ou du Silverado, j'ai pas été impressionné.
Mais c'est un format plus petit, c'est un véhicule moins pesant. Donc, on peut imaginer que ça fera l'affaire. Mais oui, ça pique notre curiosité.
Bon, un mot sur l'habitacle aussi, là, complètement redessiné. Nouvelle planche de bord, écran central tactile, 11,3 pouces, compatibilité Google, comme avec les Silverado Sierra, on n'est pas surpris. Vous allez avoir un haillon arrière aussi qui peut être bloqué à mi-course, donc pour faciliter le chargement de plus grandes planches, parce que la caisse n'a que 5 pieds de long. Et dans le haillon, il y a un espace de rangement. C'est assez particulier.
Mais
il y a un espace de rangement de 4 pouces de profondeur. Donc, vous pouvez glisser des outils, des accessoires là-dedans. Évidemment, GM, adepte des tailgate parties, a aussi profité de l'occasion pour en faire un cooler avec de la glace. Mais ça, je ne suis pas certain que ça va arriver très souvent. Il y a quelques petites astuces intéressantes avec le nouveau Colorado. Et j'ai hâte de voir le traitement esthétique qu'on va faire aussi au Canyon. Parce que...
Pour tenter de le différencier. Même si c'est le même véhicule.
Oui, parce qu'il a une sacrée belle gueule, le nouveau Colorado. Je pense qu'on a très, très, très bien réussi le look.
C'est évolutif.
C'est évolutif, mais c'est quand même plus musclé, là. Je trouvais que c'était timide, le design. Bon, peut-être pas le ZR2, mais le design du Colorado était timide et...
Ça mordait pas beaucoup.
C'est ça. Là, on a quelque chose de pas mal plus costaud. Disons que...
Peut-être un peu plus de personnalité.
C'est moins gênant de stationner ça à côté d'un Tacoma, là.
Oui, c'est bien évident. Je comprends.
Bon, Fisker, maintenant, une petite nouvelle intéressante et que j'ai hâte de conduire ça, ce véhicule-là.
Oui, c'est un véhicule qui, à chaque fois qu'on en a parlé, visiblement, ça semblait éveiller quelque chose en toi. Tu fondes beaucoup d'espoir sur ce constructeur-là. On a appris aujourd'hui que le Fisker Ocean, donc le VUS 100% électrique, sera éligible aux pleins crédits gouvernementaux. Donc, une bonne nouvelle pour les Canadiens et surtout le Québécois.
Donc, le prix est très agressif.
Oui,
évidemment, dans sa version de base.
En version de base, c'est ça. Là, on sera à 43 999 $, mais effectivement, là, on pourra monter en gamme. Il y aura des versions extrêmes et One qui seront, elles, offertes là, tout juste sous la barre des 90 000 $.
Donc, c'est du simple au double.
Oui, voilà. Donc, il y aura une gamme assez étendue du Fisker. Je ne sais pas quand est-ce qu'on prévoit les commercialiser.
D'ici quelques mois, ça devrait arriver bientôt. Chez nous.
Ouais.
Ce qui est intéressant, bon, deux trucs qui me plaisent particulièrement sur ce véhicule-là, pour ne pas dire trois. Bon, d'abord, le design.
Le toit, avec les panneaux solaires.
Les panneaux solaires qui vont servir à alimenter des accessoires du véhicule, donc réduire cette obligation d'utiliser, par exemple, la batterie du véhicule l'hiver pour chauffer l'habitacle. On va pouvoir travailler différemment. On verra quelle en sera l'efficacité, mais à tout le moins, c'est une bonne idée. Et tu sais que l'ensemble des glaces latérales sur ce véhicule-là peuvent se baisser au complet. Même les glaces de custode en arrière peuvent se baisser. Donc, je te dis pas...
Pourquoi? Parce qu'on peut.
Parce qu'on peut, okay. puis parce que personne ne l'a fait, puis parce que c'est une sacrée bonne idée.
Oui.
Tu sais, on n'est pas dans un Jeep Wrangler.
Déjà, d'avoir les vitres de la deuxième rangée qui se baissent au complet, ce qui est, c'est assez rare parce qu'à cause de la forme de la porte, on ne peut généralement pas la baisser au complet. Mais est-ce que dans le haillon arrière, on aura la possibilité
ça,
de baisser aussi?
Ça, je ne crois pas.
Déjà, d'avoir les trois vitres, finalement, qui puissent baisser, c'est particulier.
C'est assez intéressant.
Ça ressemble à rien d'autre, là, non plus.
Ça ressemble à rien d'autre. C'est un sacré beau look. C'est un beau petit format. C'est pas trop gros. T'sais, on joue pas la carte ostentatoire. Moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment ça va être commercialisé. Est-ce que ça va exister? Est-ce que ça va être solide? Bon, il y a mille et une questions. Mais je te dirais que c'est un produit qui me semble extrêmement bien ciblé. Et
parce que ça fait partie de ces nouvelles marques-là qui n'ont pas de réseau établi, où tout est à bâtir. Ça commence à faire beaucoup de nouvelles marques qui veulent tenter de conquérir l'Amérique du Nord avec des véhicules électriques.
Il y en a clairement qui vont échouer. Il y en a d'autres qui vont vraiment bien performer. Et dis-toi qu'il y en a qui sont établis depuis longtemps qui vont s'en aller. Parce qu'il y en a qui ne suivront pas la parade. Là.
Oui.
Et,
je pense qu'on ne manquera pas d'ouvrages dans les prochaines années.
Pas besoin de les nommer. Ces marques-là, je pense qu'on peut déjà les deviner.
Jaguar, Infiniti, on peut continuer.
C'est ça. Mais bref, alors c'est ça. Là, on a appris que le véhicule serait éligible. Est-ce que ce sera l'ensemble des véhicules, des versions? Probablement pas. Mais,
parce qu'on parlait là, la semaine passée là, d'un véhicule comme le C40 Recharge. Il y a des ajustements qui sont faits au fil du temps avec les paliers de gouvernement.
Voilà.
Donc, on suivra ça dans les prochaines semaines.
Pour avoir parlé avec Henry Fisker, mon dernier salon de Los Angeles, il était très conscient de l'importance du marché du Québec.
Oui.
Il sait que c'est un marché extrêmement populaire pour les véhicules électriques. Et évidemment, c'est son premier target, si tu me permets l'expression, au niveau canadien. Bon, Vancouver aussi, on vend quand même un certain nombre de véhicules électriques, mais on va mettre beaucoup, beaucoup d'énergie ici au Québec pour vendre ces véhicules-là.
Déjà qu'ils soient conscients de ça, moi, ça me fait plaisir parce que chez les manufacturiers généralistes, on n'est pas toujours au courant de ça là, dans les sièges sociaux aux États-Unis, par exemple.
Des fois, j'ai l'impression que chez Bridgestone, à Nashville, on n'est pas nécessairement au courant qu'il y a une loi au Québec pour des pneus d'hiver.
C'est
un peu ça. Fait que, effectivement, t'as raison. En tout cas, à suivre.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, ces dernières semaines, je me suis fait plaisir, je pense qu'on peut dire ça comme ça, au volant d'un véhicule qui t'a fait sourire, mais qui t'a fait surtout languir, je pense.
Ouais.
C'est la Volkswagen Golf R. Donc, un véhicule très convoité pour lequel on n'arrive pas à livrer suffisamment d'exemplaires en ce moment. C'est un vrai problème. Je discutais avec un représentant d'un concessionnaire Volkswagen qui me disait à l'automne 2022, on livrera un modèle 2022 qui aura été commandé au printemps 2021. Donc, c'est extrêmement long. Ça n'a aucun bon sens. Il faut être très patient avec ce véhicule-là. C'est dommage. C'est pour moi son plus gros défaut. On ne peut pas l'obtenir, là. Et c'est quand même... On aura beau en dire tout le bien qu'on en pense, si comme consommateur, on ne peut pas se déplacer en concession pour en obtenir un dans un délai plus ou moins raisonnable, ben c'est un réel problème, là.
Et moi, je te dirais qu'au-delà de ça, ce qui me pue au nez encore plus, c'est que tu as des concessionnaires qui volontairement ont mis la main sur des golfers,
vont les
ont roulés comme démonstrateurs, ont mis quelques milliers de kilomètres dessus, Et là, les revendre comme démo ou comme véhicule d'occasion avec 15 000 de factures en surplus.
Oui, parce que des golfeurs, entre gros guillemets, en majuscules, usagés, donc des véhicules qui ont entre 5 et 15 000 kilomètres, là, mais des modèles 2022, là, la génération, la nouvelle génération, on va vendre ça là, entre 64 et 68 000 $
C'est ça. Alors que le PDSF est à 50 ou à peu près.
Ben avec les taxes et tout ce que tu peux imaginer, c'est 55 000. Tu sais? Donc, ça vaut pas 68 000. Là. On est d'accord? Là?
C'est ça.
Bon, bref, on peut pas payer 68 000 pour une Golfer. Ça n'a pas de bon sens. Là.
Mais c'est bon la sens. Loi du marché actuel. Puis je trouve ça...
Mais c'est quasiment déloyal un petit peu.
Ben, c'est non seulement déloyal, mais tu te tires dans le pied. Parce que, puis je vais me permettre de le nommer, là, Volkswagen, le concessionnaire à Saint-Bruno, a une Golfer de 3 ou 4 000 km qui est identique à celle que je me suis commandée. On en demande 68 000 $ et la voiture est... Je veux dire, tu vends une voiture 18 000 $ de plus que le prix de détail suggéré du manufacturier.
Ça n'a pas de sens.
Le jour où ça va revenir à la normale, tu vas dire quoi au client qui a payé 20 000 de plus ou 18 000 de plus?
Non. C'est gênant. C'est gênant.
Ça n'a pas de bon sens. C'est rare des concessionnaires Chevrolet qui vont vendre des Corvettes en surenchère à 30, 40, 50 000 $
Ce seront des bannières d'un autre groupe.
Ou d'occasion qui vont le faire. Mais c'est rare des exemples comme ça.
Ça se fait à l'interne.
C'est ça.
Aussi,
et ça, je trouve ça carrément dégueulasse parce que tu viens profiter de la situation. Non seulement t'écœures ton client avec un délai d'attente qui n'a pas de bon sens, mais en plus, tu le bypasses littéralement. Parce que, si t'en veux une, on en a une. Tu vas pouvoir l'avoir tout de suite, mais tu vas payer 20 000 de plus. T'sais.
Oui, mais c'est un vrai problème. On ne peut pas recommander aux gens de payer 20
Jamais.
000 $ de plus que
Jamais, parce que cette voiture-là va chuter, là.
Ben,
c'est pas vrai que ça va valoir 68 000 l'année prochaine.
Je sais pas à quel point ça chutera, mais en tout cas, sur le marché d'occasion aussi, ça, c'est un phénomène intéressant. La Golf R de 7e génération, donc quelqu'un qui aurait loué là, en 2018 ou 2019 une Golf R, et là, en ce moment...
Avec une valeur résiduelle à 25 000.
On arrive au terme de la location de 3 ou 4 ans en ce moment, et justement, on a une valeur résiduelle de 22, 23, 24.
Ouais,
quand même bien qu'elle sera de 27 000 et ce ne sera jamais si élevé, mais on se retrouve avec un véhicule
qui en vaut 40.
Qui en vaut pratiquement le double.
C'est
là. Donc, c'est assez particulier. Ça exerce une grosse pression, même du côté du marché d'occasion.
Ouais.
Mais deux mots sur le véhicule en lui-même. J'ai adoré...
Parce que ça reste une sacrée machine.
J'ai adoré la mécanique. Là, 315 chevaux tirés d'un moteur d'un volume d'un contenant de lait. C'est quand même impressionnant. Là, on arrive à faire des miracles et c'est vraiment impressionnant. Elle pousse et elle s'essouffle presque jamais. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, elle ne manque jamais de souffle. La DSG, je ne suis pas son plus grand fan. C'est-à-dire que lorsqu'on est décollé, lorsqu'on roule, lorsqu'on...
Là, ça allume.
Là, ça opère. Là, ça allume.
Au départ initial.
Mais au démarrage, lorsqu'on part d'un arrêt obligatoire et... Des fois, elle va démarrer... Même s'il n'est pas obligatoire. on va démarrer des fois en deuxième rapport, ce qui est assez curieux. Je ne sais pas si on fait ça pour tenter d'économiser un peu de carburant. Mais bref, il y a un délai au démarrage et c'est ce qu'il y a de plus fatigant. Mais effectivement, lorsqu'on est à...
Moi, il y a un petit truc qui m'agace plus que ça.
Mais lorsqu'on est à 80 km/h et qu'on appuie sur le champignon, eh bien là, elle va être très rapide à opérer. Le châssis, lui, est aussi exceptionnel que le reste. Et sa grande valeur ajoutée par rapport à une Golf GTI, par exemple, ce sont ses quatre roues motrices, ce qui en fait un jouet pour toute l'année assez exceptionnel. Et c'est ce que j'ai écrit un petit texte sur cette voiture-là sur le site du Guide de l'Auto, et c'est ce que je mentionnais. C'est une sportive avec laquelle on doit pas négocier trop de compromis parce que on a de l'espace dans un hayon arrière, on peut asseoir deux enfants sur la banquette arrière. Tu sais, c'est pas on a entre les mains une sportive, mais qui ne nous demande pas de sacrifier grand-chose, finalement. Non, là,
exactement.
À part d'attendre longtemps. Mais tu disais...
bon, parce que moi, la planche de bord numérique, ouais, j'ai quand même des réserves.
Non, le tableau de bord, ça va, mais l'écran tactile, ça va pas.
C'est ça.
Moi, le tableau de bord avec les aiguilles numériques, ça, je vis bien avec ça. Bon, je sais que certains vont préférer des aiguilles...
analogiques.
Plus traditionnelles et physiques, mais l'écran comme tel, c'est une horreur à utiliser, c'est lent, c'est pas intuitif, c'est mal fait. C'était mieux avant. Ça, je te l'accorde.
Puis c'est esthétiquement, j'ai pas l'impression que ça va super bien vieillir.
Non.
Et j'ai comme l'impression que ça va bugger aussi.
Oui, ben ça bug déjà.
Dans 12 ans,
ça
là...
Ça bug déjà un petit peu.
C'est ça. Mais... Fait que ça m'inquiète, mais sinon, c'est une sacrée machine. Moi, de mon côté, écoute, j'ai conduit à l'autre spectre, un Jeep Wagoneer.
Donc, pas le Grand Wagoneer.
Pas le Grand Wagoneer. Un Wagoneer 5.7 MI 2022. Moteur de transition, on le sait, parce qu'on va arriver éventuellement avec le moteur Hurricane 6 cylindres en ligne turbo.
Ça devrait être l'année prochaine, ça.
Mais j'ai trouvé que le Wagoneer, bon, autant le Grand Wagoneer à 130 000 $ ça m'avait impressionné, mais en même temps, j'avais trouvé ça indécent, la facture. Et j'avais été déçu par l'efficacité de tous ces écrans qui me semblaient presque inutiles.
Il y a beaucoup de superflu, là.
C'est ça. Et ce superflu-là, tu l'as pas dans le Wagoneer. Tu as un équipement qui est décent, tu as tout ce que tu veux. Bon, celui que j'avais n'avait pas de toit ouvrant, c'est correct, tu peux l'ajouter. Mais il y avait tout ce qu'il fallait dans ce Wagoneer-là pour 50 000 $ de moins. Et tu as quand même la même machine. Et t'as un moteur,
c'est le même châssis, c'est le même...
Et tu as un moteur EMI qui fait un sacré bon travail, mais qui va consommer moins que le 6.4, bien sûr. Alors, j'ai pas le choix d'admettre que... Bon, tu sais, on va se dire des fois... Il y a une nuance entre un Chevrolet Tahoe et un Cadillac Escalade, et on comprend que les gens aillent à l'Escalade.
Mais on comprend qu'une partie de la clientèle opte aussi pour un Tahoe. Dans ce cas-là, le Wagoneer est peut-être un meilleur rachat.
C'est-à-dire que moi, entre un Tahoe et un Cadillac Escalade, je suis capable de justifier le 40 ou 50 000 $ de différence quand il y en a un. Mais avec le Wagoneer, j'ai un peu plus de misère. Mm-hmm. J'ai pas l'impression que le Grand Wagoneer va t'offrir 50 000 $ de plus de matière que le véhicule que j'ai conduit là. Et en ce sens, je favoriserais le Wagoneer, tout simplement. Bon, évidemment, c'est un gros mangeur d'essence, c'est un véhicule anticonformiste.
Ça ressemblait à quoi, sans blague, la consommation? C'était catastrophique à quel
J'étais
point?
À 15 litres.
Quand même.
J'étais à 15 litres.
Quand même.
14,8, 15, 15,2, là, j'étais autour de ça. Avec le Grand Wagoneer, j'étais à 17.
Oui, oui. Mais la cylindrée est plus grosse là, dans le Grand Wagoneer.
Et puis, bon, t'as quand même un peu plus de puissance. Bon, t'as une suspension pneumatique que t'avais pas sur celui-là. Mais... comportement, c'est j'ai même trouvé, je l'ai senti même un peu plus léger, et ça, j'ai pas détesté. Je devrais pas dire plus léger, je devrais dire moins lourd, mais
j'imagine que les jantes étaient plus petites,
voilà,
donc on avait
exactement
peut-être un certain confort.
J'ai préféré la conduite du Wagoneer que celle du Grand Wagoneer, aussi drôle que ça puisse paraître.
On peut pas avoir de peinture de ton, hein, si je me trompe pas.
C'est tout dépendant du groupe d'options que tu vas prendre. Okay. Parce que ça, c'est un série 2, tu peux avoir un série 3, puis là, je pense qu'il y a des mariages que tu peux faire qui sont différents.
Parce que c'était un élément qui m'avait bien plu avec le Grand Wagoneer, de pouvoir avoir justement le toit noir avec la carrosserie argentée, par exemple.
Oui, c'est ça. Mais non, ça, je crois pas qu'on puisse l'obtenir avec le Wagoneer. Il faudrait vérifier les... Mais on peut pas obtenir de bois non plus.
Ah, et ça, c'est très
bien. En dedans, oui.
Mais pas dehors. Et nous, on aime ça dehors.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Nous enregistrons, Germain, aujourd'hui un peu plus tôt qu'à l'habitude, parce qu'après ça, on doit se déplacer du côté de Granby, non pas pour aller voir notre famille éloignée qui se situe dans un zoo.
Ni pour aller manger chez Ben, on se bourre la bédaine.
Non. Quoi que ça se peut que ça arrive.
Ça se peut que ça arrive, oui. Non, on embarque dans nos voitures anciennes respectives assister à l'événement annuel des voitures anciennes de Granby. Événement annuel qui reprend après deux années de pause, malheureusement. Là.
Exactement. Alors, Granby, c'est le plus gros rassemblement de voitures anciennes au Canada. On parle de 3000 à 3500. Il y a déjà eu plus de 4000 voitures à Granby, mais ça, c'était pas gérable.
C'est quoi? C'est il y a 4 ou 5 ans, là, le samedi, les organisateurs ne savaient plus carrément où mettre les voitures.
Ouais, on était à la veille de bâtir un deuxième.
C'était un vrai problème. Ouais. Là, il avait fait une météo vraiment superbe. Alors, tout le monde s'était donné le mot. Ouais. Mais oui, dans l'après-midi, le samedi, ça commençait à être, comme on dit, à être pacté pas mal. Là.
Pas mal. Et puis, ben là, c'est ça. Alors, ça reprend après 2 ans d'absence. C'est la 39e édition. Et moi, j'y suis évidemment tout le week-end parce que je suis ambassadeur de l'événement, mais aussi parce que j'aime ça.
Ben oui, parce que tu étais un visiteur régulier de l'événement.
Bien avant qu'on m'approche pour...
Ben oui, bien sûr.
Alors, tu sais, c'est ça. Granby, pour moi, c'est un beau rassemblement. Il y a une belle variété. Il n'y a pas juste des autos, il y a du monde.
Oui,
c'est vrai. Sûr qu'on va passer des heures et des heures et des heures à regarder les voitures.
À les photographier, à jaser jamais... avec leurs propriétaires. Et moi, je me dis, au fil du temps, il y a une certaine... Je ne veux pas dire une redondance, mais on finit par les mêmes voitures.
C'est ce que je voulais dire, c'est que toi et moi, on suit le circuit.
Oui, c'est ça.
T'sais, on suit le circuit, on connaît les voitures au Québec.
Mais là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas d'événement à Granby, donc j'ose imaginer qu'il y aura de nouvelles voitures anciennes, donc soit des gens qui ont acheté des véhicules depuis 2 ans, peut-être de l'extérieur du Québec.
Ou qui ont pris le temps de les restaurer
finalement. Alors, j'ai un peu d'espoir de ce côté-là, de voir peut-être une fraîcheur dans les nouveaux, dans les voitures anciennes qui seront présentes sur place.
Oui, oui, c'est ça. Alors, évidemment, c'est divisé en 3 catégories. Il y a les voitures d'avant-guerre, où ça, c'est une catégorie qui est plus petite. Évidemment, ça parle peut-être à de moins en moins de monde, parce que ceux qui ont connu ces voitures-là commencent à faire longtemps, là.
Oui.
Mais il y a quand même un intérêt, il y a quand même un attrait, et il y a un club... il y a évidemment toujours le club des modalités qui est là.
Le club de la manivelle.
Oui, c'est ça.
En clin d'œil aux démarreurs de ces voitures-là. Mais bon, tu disais, c'est peut-être un peu en déclin comme type de voiture, mais en même temps, de les voir réunis une fois par année dans un événement ciblé, ça demeure intéressant. Là.
C'est ça. Alors après ça, tu vas avoir les voitures hot rod modifiées, alors tout ce qui s'appelle modification assez sérieuse. Puis tu as les voitures classiques qui sont en réalité les originales. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, on va accepter des voitures jusqu'à 1997.
Oui.
On va juger par contre le dimanche des voitures jusqu'à 1992. C'est un pas
le
de géant.
Le jugement est le samedi.
Le jugement est le dimanche.
Dimanche?
Le jugement est le dimanche. Et c'est un gros pas en avant pour les voitures anciennes de Granby parce que jusqu'à la dernière édition, on acceptait les voitures, je crois que c'était jusqu'à 1989 ou 10,
mais on jugeait
87 et moins ou 86 et moins. Alors là, il y a vraiment... On
rajeunit beaucoup le bassin. Là.
Ben, c'est parce que si tu veux attirer des plus jeunes, il faut que tu leur présentes des voitures qu'ils ont connues.
Mais en même temps, ça fait trop de voitures anciennes, puis on avait vu ce problème-là. Il faut mettre des barrières à certains points. Alors, est-ce qu'on priorise les années ou on priorise la qualité? Parce que des fois, on se demandait s'il n'y a pas des visiteurs qui profitaient de l'âge de leur véhicule ordinaire pour accéder au site de manière un peu moins coûteuse. Là, on se rappelle de la fameuse Jetta avec des pneus d'hiver.
Bon, je m'en allais dire ça.
Un pouce de poussière, là,
Je m'imagine très bien quelqu'un arriver avec une Plymouth à 1993, le cendrier bien plein, des pneus d'hiver, puis des pneus à broche en arrière avec une antenne de CB, la housse pour le chien sur le siège en arrière. Aller stationner ça sur le site, non merci.
Non, voilà, hein? ça n'a pas sa place.
On aimerait
dans une exposition.
Que ça arrive pas. On aimerait que ça arrive pas. Mais en même temps, des voitures de 1992, ça commence à être rare.
Oui.
Tu sais, puis il y a toute une série de gens. Je veux dire, moi, j'ai grandi avec ces voitures-là. 92, j'avais 15 ans. Donc, c'est des autos que j'ai connues, là.
Et c'était pas nécessairement des véhicules d'une grande qualité de fabrication,
non, mais il y a des belles
dont la durabilité était la première qualité, là.
Il y a des très, très belles curiosités, par contre. Tu sais, aujourd'hui, justement, je me documentais. On y reviendra probablement dans les prochaines semaines. Mais je me documentais un peu sur la Camaro qui avait été lancée en 1993. Fort probablement qu'on verra de ces modèles-là là-bas. Et ça fera 20 ans dans quelques semaines que l'usine de Sainte-Thérèse a fermé ses portes. Écoute, c'est quelque chose quand tu dis, tu vois qu'on vieillit quand... Bon, toi, ça te concerne pas.
Non, mais à l'encan, par exemple, il y aura une Transam WS6 2002. Là, c'est donc ça. Les dernières.
Ouais. Et, d'ailleurs, c'est la limite là, pour l'encan, les 2002. Oui. Mais oui, c'est ça. Les dernières, puis c'est des voitures qui valent leur pesant d'or. Des WS6, c'est recherché. Oui. Là. Fait que c'est... Puis c'est une génération de Camaro Firebird, ça, qui va commencer à prendre un peu en valeur, je pense.
Moi, ça m'a toujours plu, peut-être même plus que la génération précédente, là, avec les Camaro Aerox Z et compagnie. Moi, ça me rejoignait un peu moins, mais oui, quand j'étais petit, c'était finalement la dernière génération que j'ai connue.
Ah, oui, c'est ça.
Avant le retour, là, de la avant Camaro, mais c'est une autre histoire.
Alors, c'est ça. Il y aura trois grandes catégories, puis le dimanche, ben ça sera le jugement. Alors, c'est généralement le dimanche qu'on va voir les plus belles voitures, les gens qui sont un peu plus sérieux, qui veulent décrocher un prix. Les voitures les plus propres aussi, parce qu'il y en a qui vont arriver sur le site, n'ont pas nécessairement astiqué leur voiture tant que ça.
Ce sera notre cas, parce qu'on se sera rendu en plein orage.
Oui, c'est ça. J'ai amené quelques produits pour remédier à la situation, mais c'est pas nécessairement évident.
On mettra pas de miroir là pour admirer le soubassement du véhicule.
Non, de toute façon, il y a de l'huile qui tombera dessus. Fait que, en ce qui me concerne, fait que ça serait pas une bonne idée. Mais c'est ça. Alors, trois grandes catégories. Et là, après ça, évidemment... Un incontournable des voitures anciennes de Grimbay, c'est le marché aux puces. Et Germain était très, très, très bien placé pour le savoir. Parce que on arrive là le vendredi, on part à courir, on va se promener un peu, on regarde ce qu'il y a à acheter, on décroche deux, trois affaires qui nous font sourire.
Toujours.
Puis, durant la fin de semaine, tu vas te promener dans les allées, tu vas trouver quelque chose. Évidemment, si tu cherches quelque chose, tu le trouveras jamais.
Mais tu trouves toujours plein de choses que tu ne cherches pas et exactement. Dont tu n'as pas besoin.
Exactement. Et mais tu pars avec pareil.
Oui, oui, oui. Alors c'est des voitures miniatures, je remplis toujours mon sac à dos bien plein, des Hot Wheels, des Johnny Lightning, ce genre de choses-là. Des brochures, toujours toujours trop de brochures. Je me rappelle, il y a 3 ans, je m'étais procuré un très beau laminé avec une publicité de Volkswagen, avec la Golf GTI qui était faite par Jacques Villeneuve à ce moment-là. Donc, et ce laminé depuis 3 ans traîne dans ma chambre chez mes parents. Alors, vois-tu, j'en avais définitivement pas besoin, mais j'en avais en même temps tellement besoin.
C'est ça.
Mais c'est rien à toi parce que tu as déjà acheté à Grimbay des objets beaucoup plus gros et beaucoup plus encombrants et surtout beaucoup plus coûteux.
Oui, ben là,
c'est-à-dire
tu parles de
des
voitures.
Vraies voitures.
C'est
assez,
oui, c'est ça. Alors, bon, Grimbay, t'as le marché aux puces, t'as le Car Corral où tu peux aller vendre ta voiture sur place.
Ou acheter celle des autres.
Il va y avoir grosso modo 100 de voitures à vendre. Des voitures anciennes qui sont là. Il y en a des plus intéressantes que d'autres, évidemment. Puis moi, j'ai hâte de voir cette année si ça va être des prix COVID ou si les gens vont quand même être un peu compréhensifs. Parce que s'il y a une Cadillac de ville 89 à 26 500 $,
non merci.
C'est ça. À un moment donné, faut être logique, mais j'ai hâte de voir. Et je pense que l'encan, de son côté, va parler. Parce que, bon, il y a évidemment un encan qui a lieu à Grimbay. Et là, la nouveauté cette année, c'est qu'on peut miser en ligne. Vous allez sur le site vadg.ca, voitureanciennedegrimbay.ca. Vous allez voir la liste de tous les véhicules qui sont inscrits à l'encan. Vous pouvez vous inscrire comme personne qui veut miser et vous pouvez acheter sur place, c'est-à-dire à distance, comme le faire sur place. Évidemment, pas besoin de te dire que je vais être dans les estrades pour regarder les voitures passer.
Il le faut. Il y aura une AMC Concorde 1981, berline, rouge, une belle curiosité. Là. Ça m'est tombé dans l'œil. C'est pas une voiture qui vaut une fortune,
non.
Mais on n'en voit jamais, c'est-à-dire.
Non,
alors,
c'est
une belle curiosité. Tu connais mon faible pour les Mercury Grand Marquis des années 80. Il y en a un très beau, un moteur V8 de 351 pouces cubes, un seul propriétaire, gris-souris. C'est assez intéressant. Il y a aussi un Dodge Charger 70, je crois.
Ouais.
Bon, là, on sort de mon budget.
Ça va être un peu plus cher, ça, AMC Concorde. Mais bref, il y a beaucoup de trucs qui vont se trouver là. Puis évidemment, tu as toujours des commerçants qui vont essayer d'en profiter pour pour passer des voitures sur place. Mais c'est généralement des particuliers qui vont amener leur voiture là-bas, qui vont tenter leur chance. Et j'avais effectivement acheté, il y a plusieurs années, deux voitures aux voitures anciennes de Granby. Bon, la grosse brune que tout le monde connaît. Oui. Celle-là, je ne l'avais pas achetée à l'encan parce que c'est un peu drôle. Puis, tu sais, on s'en parle souvent, toi et moi, mais la quantité de gens qui m'ont dit avoir failli l'acheter, l'auto, sur place, alors que moi, j'étais dans les estrades et il n'y avait personne qui misait dessus.
Peut-être que beaucoup de gens y ont pensé, mais on était loin de miser.
C'est ça. Et la grosse brune est passée sur la ligne à l'encan. Elle n'avait pas atteint la réserve qui, je pense, était à 5 500 $.
C'était quand même pas beaucoup d'argent, mais ça fait quoi? 5, 6, 7 ans, ça, comme il faut?
6 ans.
6 ans. L'engouement pour les voitures familiales avec du faux bois était peut-être pas ce qu'il est maintenant.
Non, mais je veux dire, c'est sûr que ça aurait été une Chevrolet, une Ford, on aurait grimpé plus. Mais il n'y en demeure pas moins que moi, je crois que j'avais misé 3 700 et j'étais la plus haute mise. Et le vendeur avait dit non, ça marche pas. Et finalement, je l'ai acheté en dehors de l'encan pour 4 500. Et quelques heures après, ben, je me procurais une Camaro Z28 1986 sur la ligne à l'encan, que j'avais pas payé trop cher, que j'avais en partie restaurée et qui a pris le chemin de la France depuis. Elle roule là-bas. Mais bref...
Un samedi qui s'était avéré coûteux.
Ben, en fait, c'est drôle parce que, bon, est-ce que c'était mon premier ou mon deuxième contrat de porte-parole de l'événement, je ne saurais te dire, mais je peux clairement te dire que je suis sorti de ma fin de semaine déficitaire.
Oui, je peux l'imaginer.
C'est ça. Fait que,
avec besoin de chauffeur pour retourner à la maison.
Exactement, c'est ça. Fait que, écoute, il y a toutes sortes de trucs qu'on peut découvrir là-bas, mais je pense que l'encan, le Car Corral, c'est une attraction. Il y aura une collection privée qui sera exposée cette année aux voitures anciennes de Granby aussi. Ça, j'ai bien hâte de voir ça, semble-t-il.
Est-ce que c'est M. Dumaine qui sera
non,
là?
Non, okay. J'oublie son nom, donc okay. Je fais semblant de faire comme
ça. Ah, d'accord.
Mais,
non, mais parce que M. Dumaine, qui a une sacrée collection, bon, est là, généralement.
Va amener
là,
ses voitures, c'est bien évident.
Oui, okay.
Mais il y aura aussi une exposition spécifique. Et évidemment, bon, ben, pour ceux qui veulent voir les jugements, en fin de journée, le dimanche, à partir de 15h, c'est la remise des prix, où là, vous pouvez aller à côté du podium et voir les voitures qui ont gagné les prix défiler les unes après les autres.
Moi, c'est généralement le moment où je fais les boîtes.
Où tu commences à pacter.
Oui.
Mais bref, c'est ça. Fait que c'est un beau week-end. C'est le fun aussi parce qu'on va revoir du monde. Puis, je veux en plus souligner ceci. C'est que lorsque l'événement a lieu, la ville se transforme. Ça va bien en dehors du site des voitures anciennes de Granby. Partout en ville, tu vois de la voiture ancienne, des gens qui fêtent dans les restaurants, dans les bars.
On sait qu'il y a certaines années où la municipalité est plus conciliante que d'autres, là, mais on espère que cette année, ça fera partie des bonnes années.
Ouais, ben,
parce que c'est toujours un enjeu. Bon, on sait qu'il y a des retombées importantes pour la ville, juste en hébergement, en essence, en restauration, en tout pour les commerces locaux, tout ce que tu veux, mais en même temps, si tu es un résident près du parc, ça crée beaucoup d'achalandage, c'est certain.
C'est ça.
Mais il se passe rien sans rien, là, on est d'accord avec ça, et donc nous, on est bien heureux d'aller là, mais ça peut semer le mécontentement chez des habitants de la ville.
Et pour vous donner une idée de l'engouement de cet événement-là, bon, il y a à peu près 30 à 35 000 visiteurs, mis à part ceux qui possèdent les voitures et tous les organisateurs et tous les commerçants qui sont sur place. Il y a entre 30 et 35 000 visiteurs qui vont se déplacer là chaque année. Je te laisse deviner que les chambres d'hôtel, il n'en reste pas beaucoup. J'ai parlé à quelqu'un cette semaine qui me disait que même à Saint-Hyacinthe, c'était sold out.
C'est pareil pour les terrains de camping autour. Tout est...
voilà.
Parce que c'est les vacances en plus. Là, c'est ça aussi. Là. Donc,
ça.
Les gens veulent vraiment sortir de la maison.
Puis, n'oubliez pas un truc, c'est que oui, c'est les vacances de la construction. Donc, le zoo de Granby aussi est occupé. occupée. Donc, ça fait du monde en ville.
C'est une autre attraction.
Allez manger dans un restaurant, prenez-vous d'avance, armez-vous de patience, soyez conciliants avec les serveurs et les serveuses. C'est pas nécessairement évident.
Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de travaux sur l'autoroute 10 à la hauteur de Granby.
Ah, quel beau timing. Ça, c'est magnifique.
Oui. Vous aurez remarqué qu'il y avait un peu d'ironie là, dans mon propos.
Bon, peut-être un petit truc là, pour ceux qui vont se diriger vers Granby en partance de Montréal. Sortez à Saint-Paul d'Abbotsford et prenez la vieille route. Vous allez sauver énormément de temps. Ça va vous prendre 5 minutes de plus que s'il n'y avait pas de trafic sur l'autoroute,
mais vous allez
sauver 45 minutes.
Quand on a une voiture ancienne, des fois, et que le mercure monte, la mécanique peut surchauffer, là, donc ça peut devenir un peu embêtant.
Je ne sais pas si on va en voir des mercures, d'ailleurs.
Ah, je sais pas. C'est une
X-R4 Ti, là.
Il y en a une qui traîne en dessous de l'autoroute métropolitaine, blanche.
Une X-R4 Ti?
Ou une Sierra, là, quelque chose comme ça. Là.
Scorpio?
Oui. Okay. Toi, Antoine, tu iras à Granby avec quel véhicule? Quel véhicule au pluriel?
Oui, quel véhicule? Parce que, bon, évidemment, j'ai pas le choix d'amener la grosse brune. On va l'amener sur place. C'est un peu la mascotte. Je vais aussi apporter mon Jeep G10 que j'ai acheté du côté de la Californie il y a, quoi, un mois à peine, et qui a fait énormément jaser, d'ailleurs, roulant avec aujourd'hui. Il y a une voiture qui m'est partie après.
Ah!
Il m'a klaxonné sans cesse les hautes, les basses. Il m'a dépassé, il m'a coupé le chemin.
Pourquoi donc?
En plein milieu de la rue.
Pourquoi?
Pour venir me dire bonjour.
Ah!
Hey, je t'ai vu à salut bonjour! Fait qu'il m'a coupé le chemin, il y avait du trafic en arrière, là.
Ah!
J'ai fait, écoutez, bonjour, mais vous comprenez qu'on est sur la rue, là.
OK.
Des fois, c'est comme... Il y avait beaucoup d'enthousiasme,
le contexte n'était pas le meilleur.
Non, puis sur le coup, je me demandais si c'était pas une police, parce qu'il y avait une vieille, il y avait une Chevrolet Impala blanche, dernière génération, pas vieille, mais dernière génération. Okay. Fait qu'il y a une Impala blanche qui te flashe les lumières en arrière.
Tu te poses des questions,
c'est
je comprends.
Ça. Fait que voilà.
Donc le Jeep G10 sera là. Ça ne sera pas le seul Jeep.
Ça ne sera pas le seul Jeep, parce que je vais aussi amener le Grand Wagoneer, mais ça va être mon véhicule de déplacement.
Oui.
Mais je vais aussi le mettre sur le site. Du moins, je vais tenter, parce que ça se peut qu'il n'y ait plus de place. Mais je vais tenter de faire ça. Mon ami François Bonneville va venir faire un tour samedi et va travailler sur le Jeep pour essayer de l'améliorer un petit peu. Il y a quelques petits trucs à faire, disons, sur le plan esthétique.
J'ai rien dit.
Un peu sur le plan mécanique aussi.
Ah,
là.
OK.
Mais au moins, le véhicule a passé l'inspection la main, ça roule, ça va bien, il n'y en a pas de problème. Alors voilà.
Donc, on se retrouve en fin de semaine aux voitures anciennes de Granby, au parc Daniel Johnson.
Et puis, évidemment, peut-être un petit mot en terminant sur le fait que, il y a beaucoup d'achalandage, surtout le samedi matin.
Mm-hmm.
Arrivez tôt. Prenez-vous d'avance si vous avez un véhicule. L'inscription en ligne, malheureusement, maintenant, elle est terminée.
C'est terminé,
mais c'est un sacré avantage de s'être inscrit en ligne pour entrer avec votre véhicule.
Il y a une file plus rapide.
Il y a une file plus rapide, c'est ça. Et puis, évidemment, si vous arrivez à 9h, 9h30 le matin, ça se peut que vous fassiez une ligne quand même assez longue. Donc, prenez-vous d'avance. De toute façon, il y a toutes les commodités sur place. Vous pouvez déjeuner sur place. Il y a de la restauration en masse, il y a tout ce qu'il faut. Alors, arriver plus tôt que tard, c'est un bon conseil que je vous donne. J'ai comme l'impression qu'il va faire beau en fin de semaine et qu'il va y avoir énormément de gens sur place. Et que dimanche soir, je ne serai pas capable d'animer une émission comme on fait présentement parce que la voix va être brûlée un peu.
Peut-être un petit coup de soleil ici et là.
Ouais, c'est ça.
On ne sait pas trop.
Exactement.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Antoine, terminons l'émission avec quelques questions des auditeurs. On a Claude qui nous écrit qu'il est intéressé par les véhicules VinFast, mais il est sceptique quant au principe de location de la batterie.
Moi aussi.
c'est assez clair.
J'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment on va s'adapter au marché avec ça.
Parce que c'est pas une télécommande pour changer les postes.
En fait,
t'achètes
un véhicule qui vient sans batterie, il faut que tu loues la batterie. Et quand la batterie commence à être fatiguée, tu la remplaces. Mais bon.
C'est pas un phénomène qu'on a vu actuellement sur le marché. On n'a pas vu de véhicules à essence, par exemple, pour lesquels on devait louer le moteur à essence. On n'a jamais on n'a jamais vu ça.
Non, tu loues l'auto au complet.
Tu loues l'auto au complet, c'est ça. Voilà.
Fait mais... que non, j'ai bien ben hâte de voir comment ça va fonctionner. Par exemple, tu achètes ta voiture, tu loues ta batterie. Au bout de 2 ans, tu ne veux plus ta voiture. Là, tu fais quoi? Tu retournes la batterie, tu vends ton...
Ouais. Je comprends. C'est normalement deux composantes qui vont de pair, là.
Ben oui.
La motorisation et le véhicule, là. Mais...
Tu sais, je veux dire, je donne souvent cet exemple-là. Je peux pas, sur mon terrain chez moi, j'ai une maison puis un garage. Je peux pas vendre juste la maison.
Non,
garder le garage. Ça,
tout ça va ensemble.
C'est un peu... Fait que j'ai bien, bien hâte de voir comment tout ça va se placer. Alors, moi aussi, je suis sceptique.
Ah, d'accord.
J'ai pas d'autres commentaires que ça.
Ça répond clairement à la question. On a Jean qui considère s'acheter un Kia Niro EV d'occasion. Il mentionne qu'il y a une grande différence de prix entre les versions dotées de la pompe à chaleur et celles qui n'en sont pas.
Ouais.
Est-ce que la pompe à chaleur est absolument nécessaire?
Ben, absolument nécessaire, non, si vous ne roulez pas énormément. Le problème, c'est que la pompe à chaleur permet de garder une certaine autonomie en hiver parce qu'elle réchauffe les batteries et donc ça facilite d'emmagasiner de l'énergie pour la batterie. Si vous n'avez pas de pompe à chaleur, ben, vous allez voir votre autonomie baisser d'à peu près 50% et peut-être même plus dans des grands, grands froids. Alors, c'est ça le gros impact. Maintenant, une Kia Niro, ça fait 375 km l'été, 400 des fois. Ça peut baisser à 200 l'hiver sans pompe à chaleur. Si ça vous convient, ben inutile de payer plus cher. Et effectivement, ce sont des véhicules qui sont moins convoités. Je pense qu'on les a fait juste en noir aussi. Il n'y a aucun élément de sécurité là-dedans. Il n'y a pas l'équipement.
C'est pas très grave de ne pas avoir des assistants à la sécurité.
On a développé un véhicule qui n'est pas super intéressant pour la moyenne des acheteurs qui veulent payer ce montant-là. Puis tu regardes l'équipement. De mémoire, je pense qu'il n'y a pas de volant chauffant, il n'y a pas de... Tu sais, il y a plein de petits trucs que tu fais. Ça, c'est des gadgets que je veux. Puis quand tu payes 45 000, t'en veux. Mais là, 45 000 moins 12 000, puis là, c'est un véhicule d'occasion. Alors, il se vend à combien? Là, j'ai pas les prix devant moi.
Parce que le prix des véhicules électriques d'occasion est en fluctuation pas mal vers le haut en ce moment.
Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas quel est le prix de ce véhicule-là, mais ça peut être une alternative intéressante, effectivement.
Dans la mesure où on n'a pas besoin de parcours toujours de grande distance. Dernière question, là, Steven qui nous demande pour remorquer une charge de 4000 livres, est-ce que tu as une préférence entre le Ford Maverick et le Hyundai Santa Cruz?
C'est une bonne question. J'ai davantage confiance à la mécanique du Ford Maverick.
OK.
Pour le long terme. On sait que le moteur 2 litres turbo, c'est un moteur qui est capable, il est jumelé à une bonne transmission automatique. C'est pas le cas du Santa Cruz. Parce que le Santa Cruz, on a une boîte double embrayage avec laquelle on a connu énormément de problèmes.
C'est pas fait pour travailler.
Et ce moteur turbo-là, bien qu'il soit puissant, lorsqu'on l'exploite, il est très gourmand. Je vous avoue que moi, le Santa Cruz, pour moi, c'est une belle curiosité, mais c'est en même temps une déception en raison de sa motorisation. Et j'ai davantage confiance au Ford Maverick.
Très bien. Antoine, je te souhaite une excellente fin de semaine aux voitures anciennes de Granby, où nous nous croiserons pas mal tous les jours.
Fait que à la semaine prochaine, un peu plus bronzé, sans doute.
Sans doute.
Cube Radio.